30 juillet. Toute l'actu près de chez vous avec Fabien Gazot. Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. La circulation virale est toujours dans une phase ascendante dans le département des Deux-Sèvres. Le directeur délégué départemental de l'Agence régionale de santé a indiqué hier lors d'un point presse commun avec le préfet que le taux d'incidence dépassait désormais 100 cas pour 100 000 habitants, 103 pour être précis. Le variant Delta est désormais présent dans 95% des cas. Le secteur du Niortais est plus impacté, 170, suivi du Haut-Val-de-Sèvre, 150. Le Nord-de-Sèvre est plus épargné en ce moment avec 40 cas pour 100 000 habitants. Laurent Flamand.
De manière constante depuis 4 semaines, la circulation virale s'intensifie en Deux-Sèvres et nous avons maintenant une situation qui commence à émerger aussi dans le secteur hospitalier avec à nouveau une première personne en réanimation. La circulation virale aujourd'hui, elle concerne d'abord en premier lieu les publics les plus jeunes de 20-30 ans où d'ailleurs le taux d'incidence est 4 fois supérieur à la moyenne globale d'incidence et c'est ensuite au bout de 15 jours, 3 semaines que cela se diffuse chez les proches qui sont plus âgés. Et où l'évolution du taux d'incidence commence aussi à monter. Si on fait aujourd'hui une comparaison, le taux d'incidence chez les 20-30 ans est aux alentours de 400 cas pour 100 000 habitants en Deux-Sèvres, lorsque pour les personnes âgées de plus de 35 ans, il est à peine de 50 cas pour 100 000.
Les personnes hospitalisées à ce jour en Deux-Sèvres présentent des comorbidités et ne sont pas vaccinées. À propos de la vaccination, justement, le rythme est maintenu avec une moyenne d'un peu plus de 25 000 injections par semaine sur les 3 dernières semaines. On en est à 55% de Deux-Sèvriens ayant un schéma vaccinal complet, mais il faut encore convaincre pour atteindre une immunité estimée à 85-90%.
On a beaucoup encore de personnes âgées qui ne sont pas convaincues ou qui ne veulent pas se faire vacciner. Et chez les plus de 75 ans, il y a eu plusieurs actions en direction et des prises de contact individuelles pour leur proposer la vaccination. Et on a un plafond de verre auprès duquel on n'arrive pas à passer et on a encore un refus de vaccination. Mais 90%, si on arrive à 90% pour toute la population, ce sera suffisant.
Vous avez souligné aussi l'importance de ne pas trop se relâcher sur les gestes barrières. C'est un peu le cas là en ce moment.
Oui, on rencontre un peu plus souvent lorsqu'on fait le travail du tracing pour les cas positifs, un relâchement des gestes barrières chez les personnes vaccinées qui peuvent penser qu'une fois vaccinées, une fois le pass sanitaire, on peut laisser de côté tous les gestes barrières. Non, surtout pas. Je ne dis pas qu'on doit être aussi vigilant que non vacciné, mais quand on est vacciné, les gestes barrières sont nécessaires puisqu'on peut encore être le vecteur d'une contamination.
Et à ce stade, le port du masque est encore obligatoire aux endroits les plus fréquentés, même en extérieur, a rappelé hier le préfet des Deux-Sèvres, qui ne s'inquiète pas particulièrement sur l'application du pass sanitaire.
Alors dans le département, le pass sanitaire est en vigueur depuis quelques jours pour les établissements sur le loisir, la culture, les sports. Il sera amené à voir son champ évoluer, élargi avec la mise en application de la loi qui est actuellement soumise au Conseil constitutionnel. Et à ce stade, dans les Deux-Sèvres, l'application du pass sanitaire n'a pas mis en évidence de difficultés particulières. Bien sûr, ça nécessite un effort supplémentaire de la part des organisateurs, ça nécessite une attention de la part des usagers, des contrôles sont effectués, mais ces contrôles jusqu'à présent n'ont pas mis en évidence de difficultés particulières.
Emmanuel Aubry, qui a déploré hier la mort d'une 10e personne sur les routes de Sèvrienne. Depuis le début de l'année, un homme de 56 ans décédé sur la RN 149 à Chiché. Il était 9h30 lorsque sa voiture a, pour une raison indéterminée, quitté son couloir de circulation. Plusieurs véhicules ont réussi à l'éviter, mais pas un poids lourd qui arrivait en face. Une deuxième voiture a été impliquée dans la collision. La famille présente dans cette deuxième voiture et le conducteur du PL du poids lourd n'ont pas été blessés. Le trafic a évidemment été très perturbant du côté de Chiché sur la RN 149. Et puis cette nuit à Montcoutan, un jeune homme de 20 ans a percuté un arbre très violemment au volant de sa voiture au lieu dit la Haute-Genière sur la route de la Chapelle Saint-Étienne. Les pompiers l'ont extrait de son véhicule avant son transport vers le CHU de Poitiers en urgence absolue. Le préfet a annoncé le renfort des contrôles routiers en ce week-end de chasse et croisée. On en reparle demain matin. À Sainte-Néomée, un enfant de 2 ans a chuté dans les escaliers hier en début de soirée dans un état grave. Il a été transporté par hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Après le meurtre survenu en début de week-end dernier à Cholet, le tireur présumé et 2 autres suspects ont été interpellés à Angers, selon Ouest France. Un homme de 33 ans a été la cible de 2 balles tirées à bout portant, place Travaux.
Les dirigeants des Sirmagnortaires remettent la pression sur l'agglomération de Niort.
Alors qu'ils viennent d'obtenir in extremis une dérogation de la Ligue jusqu'au mois d'octobre concernant l'éclairage du stade René Gaillard, les frères Hanouna, Ethan, le président, et Michael, le directeur général, ont convié les médias hier pour redire combien les infrastructures étaient désuètes et pourquoi il était indispensable que la collectivité publique s'engage aux côtés du club pour que ce stade vieux de 1974 réponde enfin aux exigences du moment lorsque les droits télé seront annexés sur la licence club, ce qui sera le cas dès la saison prochaine ou la saison suivante, selon Michael Hanouna. Les Chamois seront hors jeu, estime le directeur général qui met les pieds dans le plat.
Il y a pas de, à part le football à Niort, il y a beaucoup de, enfin c'est beaucoup de football de sport amateur, ce qui est très louable, c'est super, c'est magnifique. Simplement, il n'y a pas une culture du club professionnel. Comment on fait pour épauler, pour aider un club professionnel à grandir? Donc, comme par exemple, c'est le cas à Pau. Puisque Pau, leur équipe est montée en Ligue 2 la saison dernière, ils ont déjà un stade. Nous, au Niort, ça fait déjà 10 ans qu'on est en Ligue 2, et en tout plus de 1000 matchs au niveau professionnel, il n'y a toujours rien qui se passe. Donc voilà, c'est, je pense qu'on est considéré à Niort un petit peu comme un club amateur, puisqu'en fait, ici, on n'a pas l'habitude du sport professionnel, bien que les Chamois-Niortais ont une place importante dans le cœur des Niortais. À partir de la saison prochaine ou maximum la saison d'après, les droits télé vont être calculés en fonction des points de la licence club. Donc c'est-à-dire si les structures ne sont pas au niveau, comme c'est le cas à Niort malheureusement, donc aujourd'hui on a juste la moyenne au niveau licence club et des clubs ont le double de points que nous. Ce qui veut dire que si à un moment donné les recettes télé sont les doubles chez les autres que chez nous, ben on aura de moins en moins de moyens pour lutter, ça veut dire la disparition des Chamois-Niortais du niveau professionnel tout simplement. C'est la question, c'est de savoir est-ce qu'on veut avoir une équipe de foot au niveau professionnel ou une équipe professionnelle à Niort ou pas. Ça, c'est la vraie question.
La collectivité semble toujours vouloir des précisions sur le projet. Vous, le projet, vous estimez l'avoir présenté suffisamment clairement?
Mais notre projet sportif, je pense qu'on a un des projets sportifs les plus clairs de la division. Notre projet sportif, c'est de relancer des joueurs pas suffisamment mis en valeur ou qui n'ont pas pu trouver leur place dans des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 et de lancer des jeunes joueurs. Notre projet sportif, il est clair. Aujourd'hui, on ne pourra pas grandir. C'est impossible de grandir sans l'appui de la communauté d'agglomération niortaise. Et les gens n'ont qu'à prendre comme exemple quelque chose qui est très proche et qu'ils ont vu grandir devant leurs yeux, c'est le Stade Rochelet. Le Stade Rochelet, il y a 10 ans ou 12 ans, c'était le niveau des Chamois niortais. Aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs d'Europe. Alors voilà, je ne dis pas qu'on va arriver à être un des plus grands clubs d'Europe, mais on peut arriver à avoir une place importante dans l'élite du football français.
Michael Hanouna et son frère Ethan attendent donc des engagements forts de Niort Agglo. À guetter maintenant la réaction de Jérôme Baloge, président de l'Agglo et maire de Niort. Assistera-t-il demain à la première rencontre de la saison à domicile face à Caen? Réponse aux alentours de 19h. En basket, la team de Sèvres disputera demain la grande finale de la Summer League 3-3 Nouvelle-Aquitaine organisée par la Ligue. En plein cœur du jardin public de Bordeaux. L'équipe est composée de trois Bressuirais, Jérémy Deschamps, Joris Mezouri et Damien Perrault, et d'un Chorésien, Antoine Debenesse. Une idée bouquin pour vous accompagner cet été si vous avez connu les années 70 du côté de Molévrier ou plus généralement dans le Choletais. Le livre de Dominique Coutan pourrait bien grandement vous satisfaire. Elle signe Un mouchoir au fond du puits aux éditions Au bord du Lot. Un premier roman pour Dominique Coutan qui a commencé son écriture il y a 10 ans. Mise en sommeil, elle a profité d'un concours littéraire pour le retravailler. Concours qui lui a valu une édition et la réalisation d'un rêve d'enfant. Inspiré par son histoire personnelle et nourri par les recherches effectuées au musée du textile à Cholet, l'auteur nous offre une intrigue dans le milieu des tisserands qui ont connu une période faste dans les Mauges. Dominique Coutan au micro-colline de Vincent Nori.
Un squelette est retrouvé au fond d'un puits et alors on a un inspecteur qui est un tout jeune inspecteur qui vient faire la première enquête de toute sa carrière. Et le problème, c'est que il y a plein de gens qui ont des mystères à cacher. Donc le pauvre, il va être un petit peu brinque-ballé au gré de son enquête jusqu'au dénouement final. Donc ça va me permettre à moi de créer un suspense pour les besoins de mon enquête à moi, on va dire. Mais en réalité, si on parle de, c'est pas complètement une enquête policière dans le sens où on sait déjà en tant que lecteur le résultat. J'avais envie un petit peu de raconter des choses de mon enfance. Un mouchoir au fond du puits. Ça se passe, mais je ne le dis jamais dans le roman, ça se passe dans mon village natal, c'est-à-dire à Molévrier. ça me permet un petit peu de créer, comment dire, une espèce de complicité avec un lecteur potentiel, un lecteur local.
Un mouchoir au fond du puits de Dominique Coutant aux éditions du Bord du Lot. Un livre disponible notamment au musée du textile. L'occasion peut-être de découvrir cet endroit chargé d'histoire locale. Le livre est également disponible au Fresno à Bressuire.